Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Rosalie Suc, mais aussi Margot Laurie, dont Bertie Bourdon, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Jean Guilhermèche. Premier temps d'une nouvelle série consacrée à la santé, avant de nous pencher demain sur les migrations dans le secteur du soin, puis sur les industries pharmaceutiques confrontées à la justice, et enfin jeudi de nous intéresser à la médecine traditionnelle. Commençons aujourd'hui par une institution au cœur d'une grave crise aujourd'hui, l'hôpital. Crise des hôpitaux, crise des systèmes, point d'interrogation, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Vous pouvez pas rentrer dans le poste de soins.
Je suis en train de courir derrière lui, c'est pas normal. Non, vous dites que vous êtes en grève, mais vous êtes bizarre.
On est en grève parce qu'on manque de personnel, on manque de moyens.
Pour me faire patienter, je suis rentré, j'ai resté 45 minutes ici devant dans les chambres.
On est en grève parce que vous attendez. C'est parce qu'on n'a pas assez de personnel, parce qu'on n'a pas assez de moyens. Et c'est pour ça, monsieur, qu'on est en grève.
A débuté aux urgences à Saint-Antoine suite à des agressions en fait, qui ont fait déborder le bassin.
On aime notre métier, on ne s'arrête pas pour le plaisir de gêner. Surtout qu'on ne veut pas gêner nos collègues. Ce qu'a fait Madame Buzyn, c'est de nous culpabiliser. Il faudrait qu'elle vienne se rendre compte sur le terrain ce que c'est de travailler. Et je pense qu'elle s'en rend mieux compte que la fatigue physique et psychologique, elle est vraiment présente.
Il s'agit bien aujourd'hui d'un plan de financement ambitieux. Cela correspond à 750 millions d'euros de mesures nouvelles. 80% de ces financements sont bien dédiés à des ressources humaines, au financement de moyens humains.
Après 6 mois de grève dans les services d'urgence française, la ministre de la Santé, qu'on entendait à l'instant, Agnès Buzyn, a annoncé le 9 septembre dernier un pacte de refondation des urgences, chiffré à 750 millions d'euros sur 3 ans, mais qui semble loin, loin de calmer la colère. Mais si la France est évidemment concernée par cette crise, elle n'est pas la seule. En effet, durant l'hiver 2018, c'était les urgences anglaises qui connaissaient un engorgement d'une telle ampleur que 55 000 opérations avaient dû être ajournées. Theresa May avait même dû présenter ses excuses aux patients anglais. Si certains évoquent des coupes budgétaires, des problèmes de moyens, d'autres y voient l'illustration de défaillances structurelles plus profondes. D'ailleurs, certains pays en Europe ne rencontrent pas les mêmes difficultés, comme en Allemagne par exemple, où l'on est même parvenu à dégager des excédents sur l'assurance ces 15 dernières années. Alors comment expliquer de telles disparités? Les systèmes de santé européens reposent sur le même principe d'un droit à la santé, se sont bâtis sur l'État-providence, sont financés par la redistribution, mais les très nombreuses réformes ont un peu brouillé les cartes et ont fait apparaître des systèmes finalement assez différents. Alors quels sont les différents modèles de systèmes de santé en Europe, comment les comparer, quelles ont été les différentes réformes aussi réalisées au cours du temps, avec quels résultats? Va-t-on vers toujours plus de privatisation? Les carences budgétaires sont-elles les seules responsables des défaillances dans les systèmes de santé et dans la mise en pratique des soins? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité 2 personnes. D'abord, ici à Paris avec nous en plateau, Yann Bourgueil, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche à l'IRDES, l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, c'est bien ça?
Oui.
Et puis, vous êtes également attaché à l'École des hautes études en santé publique. À nos côtés, à Bruxelles, quasiment voisin, Pascal Garel, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes vous directeur général de la Fédération européenne des hôpitaux. Alors on va commencer peut-être sur l'annonce de ce plan que j'évoquais à l'instant, le plan d'Agnès Buzyn, Yann Bourgueil, baptisé pacte de refondation des urgences avec le déblocage de 750 millions d'euros pour la période 2019-2022. On voit que le mouvement social en réalité se poursuit et que d'ailleurs il s'étend puisque le privé aussi est aujourd'hui touché par ce mouvement de contestation. On l'a vu notamment par exemple du côté de Toulouse avec la clinique Ambroise Paré. Que vous inspire, on va commencer par cette question, que vous inspire ce pacte de refondation des urgences et pourquoi, selon vous, il n'a pas permis d'apaiser les choses? Grande question, l'auditeur n'a pas l'image, mais enfin, vous levez les sourcils.
Oui, grande question. Je crois que ce plan répond d'abord à une crise urgente, mais qui témoigne en fait d'un problème qui finalement est connu depuis longtemps et qui évolue depuis longtemps et qui témoigne aussi de nécessaire, je crois, réflexion plus large sur l'organisation des soins. Demander toujours plus de moyens dans des services d'urgence qui ont toujours une activité qui ne cesse d'augmenter depuis 20 ans, je crois, est une perspective qui nécessite de se poser des questions sur la façon peut-être d'élargir finalement la question qui est là et de revenir un peu sur les mécanismes qui font que cette activité d'urgence augmente, que les problèmes s'y trouvent et que les gens qui très convaincus et très impliqués dans la réponse à la demande de soins se retrouvent dépassés. Donc je crois effectivement que s'il s'agit de répondre à court terme donc à cette crise, il faut revenir aussi et en ce sens-là, enfin aux causes profondes. Et en ce sens-là, les urgences sont vraiment le témoin de problèmes en général dans le système de santé. Et peut-être ces problèmes que nous allons.
On va évidemment les aborder. On va détailler un peu les choses. Mais la première chose que j'entends et qui est évidemment une des problématiques sur lesquelles on se penche aujourd'hui, c'est de savoir si oui ou non il s'agit d'une crise des moyens. Et à vous entendre, c'est pas seulement une crise des moyens. Pascal Garel, je vais vous faire réagir aussi sur ce pacte de refondation des urgences, sur le regard que vous portez sur la réponse elle-même. Mais peut-être aussi sur la communication et l'acte politique qu'il y a derrière, parce que on a répété régulièrement et d'ailleurs du côté du gouvernement en particulier que le problème des urgences c'était pas un problème lié aux moyens. Là, on annonce quand même le déblocage de 750 millions d'euros pour calmer la colère. Est-ce qu'il n'y a pas au moins une incohérence profonde entre le constat posé du côté du gouvernement et le geste politique? Parce que si le gouvernement considère que c'est pas une question d'argent, alors le fait de débloquer des crédits apparaît forcément comme un acte un peu de désespoir, Pascal Garel.
C'est pas la première fois qu'on est face à une contradiction importante et un paradoxe dans les politiques françaises. Mais je veux plus me positionner sur l'exemple anglais, puisque vous l'avez cité tout à l'heure. Et on va peut-être aussi réfléchir sur le mot de crise. Une crise qui est récurrente et qui est systématique, est-ce que c'est toujours une crise, pour citer Alfred Sauvy, sur ce thème économique? Au Royaume-Uni, chaque année, on prépare la crise, on sait qu'elle va arriver et on réinjecte des moyens. 750 millions, vous avez dit, d'euros pour 3 ans. En 2014, le Royaume-Uni, enfin, encore une fois, l'Angleterre et pas l'ensemble du Royaume-Uni, recevait à peu près la même somme pour la seule année. Et chaque année, on a une reconduction, une préparation à cette éventuelle crise. Et chaque année, on a une nouvelle crise qui se reproduit. Car comme l'a dit Yann, et c'est valable pour la plupart des systèmes de santé, et on reviendra ensuite sur l'Allemagne, qui est un faux bon exemple, effectivement, on a une croissance de l'accueil aux urgences. On a une croissance partout. Elle n'est pas à peu près le même niveau, mais elle est quand même majeure partout. Et lorsqu'on voit effectivement le plan que Madame May et ses prédécesseurs ont mis en place, qui sont réinjectés de l'argent, une partie importante va quand même augmenter les capacités en ressources humaines et aussi en lit. On reviendra sur ce sujet parce que le lit, qui est peut-être pas un très bon indicateur d'activité hospitalière, c'est quand même l'élément essentiel pour essayer de désengorger les urgences, sachant que en moyenne, 30%, et là sur 5 pays européens qui ont été étudiés récemment, 30% des passages aux urgences conduisent à une hospitalisation. Donc derrière, il y a forcément aussi un besoin en lit. Là, je parle pour la partie hospitalière, et bien sûr, il y a des éléments en amont qu'il faudra analyser.
Et on reviendra évidemment sur le cas britannique, on va s'appuyer assez largement sur les différents modèles, on va d'ailleurs voir si on peut parler de modèle ou si au fond chaque pays n'a pas son propre modèle. Mais pour rester, Yann Bourgueil, sur le cas français, peut-être la pierre angulaire, il y a 12 propositions dans ce pacte, 12 mesures dans ce pacte de refondation, il y en a une qui est extrêmement importante, c'est la mise en place avant l'été prochain a priori, d'un service d'accès aux soins. Censé soulager précisément les services des urgences, les premiers ateliers d'ailleurs pour essayer de dessiner les contours de cette chose-là ont débuté la semaine dernière avec cette feuille de route qui est que ce service d'accès aux soins doit permettre aux patients de joindre par téléphone ou via internet 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, un médecin qui pourra en fonction des besoins les réorienter soit vers une consultation en ville, soit vers les urgences, soit faire appeler une ambulance, bref, dispatcher un peu tout ça. Est-ce que c'est un outil qui vous semble de nature à répondre à la crise? Je mets des guillemets puisque j'ai bien compris que Pascal Garel le disait, que quand on avait une crise perpétuelle, il fallait se demander s'il s'agissait toujours de crise. Mais tout de même, Yann Bourgueil.
Alors, oui, toutes les mesures qui visent à améliorer l'accès aux soins, je dirais dans le champ des soins primaires, en soins ambulatoires, et qui cherchent donc à diminuer le recours ou l'arrivée dans les services d'urgence des patients, effectivement, ça a été montré dans d'autres pays, peut avoir des effets. Le problème, c'est que une mesure seule ne suffira peut-être pas, et c'est tout un ensemble en fait. Il faut vraiment aborder l'organisation du système de soins avec différentes dimensions. Un exemple, le Royaume-Uni a mis en place ce qu'ils appelaient le NHS Direct, et ensuite le NHS 111, qui était un numéro d'appel, de triage.
Qui est exactement ce qu'on veut faire, en fait.
Qui ressemble à ce qu'on veut faire, mais il faut voir ce qu'on veut faire. Hein. Mmh. Et les évaluations, et pour le coup, il faut saluer les Anglais, qui ont quand même regardé ce que donnait leur ce numéro, ont quand même montré globalement que ça ne résolvait pas le problème de l'arrivée aux urgences.
Pourquoi ? Alors, parce que nous, ici, quand même, on répète que c'est vraiment le plus, quasiment le plus important de toutes les mesures. On a dit que c'était la pierre angulaire, le plus important.
Alors, d'abord.
Et ça marche pas, vous nous dites, alors, en Grande-Bretagne.
En tout cas. Après, il faut regarder dans le détail. Il faut se méfier un peu, je pense, des simplifications trop rapides. Mais en Angleterre, pourquoi ? Bah, parce que quand on crée un service nouveau, on peut révéler une demande qui ne s'exprimait pas. Donc déjà, on offre un service et les gens répondent. Et à ce moment-là, on a une demande qui se révèle. Et puis, il faut aussi que le système fonctionne bien en aval. C'est-à-dire qu'une fois que vous orientez, bah, il faut aussi qu'il y ait des médecins qui soient là pour accueillir. Il faut aussi qu'il y ait une organisation de la permanence des soins, où il faut que l'organisation des soins non programmés soit faite dans le système. Il faut aussi que les maisons médicales de garde qui sont à côté des services d'urgence accueillent vraiment, enfin, ou soient vraiment utilisées. Et par exemple, on sait qu'en France, les maisons médicales de garde qu'on a mis en place à côté des urgences n'ont pas toujours eu beaucoup de succès. Une des raisons étant que l'hôpital n'avait pas forcément un intérêt à ce que l'activité parallèle se développe, puisqu'il y a des incitations économiques qui sont derrière. Donc, en fait, vous ne pouvez pas prendre de façon isolée une mesure. Il faut, je crois, aborder les mesures dans leur ensemble.
Alors Pascal Garel, à la fois sur cette mesure en particulier de service d'accès aux soins, et puis aussi quand on la met en perspective avec l'ensemble des autres mesures proposées, votre regard, Pascal Garel ?
Ouais, mon regard est qu'effectivement, on a un peu tout essayé partout en Europe. C'est ça aussi la richesse de notre diversité des systèmes de santé. C'est que on a une capacité aujourd'hui, si on veut vraiment se poser des questions, d'aller essayer de trouver des réponses ailleurs. Pourquoi le passage, le point de contact aux urgences pour 1000 habitants est toujours de 280 par an en France, alors qu'il est aujourd'hui de 156 au Danemark? Parce que effectivement, on a réussi à mettre en place un certain nombre de dispositifs, aussi bien dans le secteur sanitaire que social, car un des sujets majeurs pour la plupart des pays, au moins de l'ouest de l'Europe, c'est le vieillissement, c'est la multichronicité de patients, et donc essayer de faire en sorte d'éviter que ces personnes aillent aux urgences, c'est le béaba. Donc, si on réussit, comme c'est le cas du Danemark ou des Pays-Bas, qui sont encore plus bas au nombre de contacts aux urgences, c'est qu'il y a des solutions qui ont été identifiées, encore une fois, dans le domaine sanitaire et social.
Et alors, si on prend le cas, par exemple, des Pays-Bas, comment est-ce qu'ils s'y sont pris ?
Dans le système des Pays-Bas, c'était assez drastique. On est dans un système à l'origine qui était très proche du nôtre, dans sa logique bismarckienne, si vous voulez prendre une expression, d'assurance sociale, hein, assez proche du nôtre. On l'a complètement fait éclater dans une logique de mise en compétition. Alors, mise en compétition sans acteur à but lucratif, hein, je précise, mais mise en compétition dans le système, où le point d'entrée essentiel dans le système, c'est l'assurance. C'est l'assurance qui décide si finalement vous pouvez accéder aux soins, pas en urgence bien sûr, mais qui a poussé les acteurs de soins à travailler de façon peut-être plus harmonieuse en réseau, et qui a conduit à ce résultat. Hein, en fait, en tout cas, on n'a pas d'engorgement aux urgences dans un pays. Pourtant, on pourrait imaginer, hein, vu sa très forte densité, que le recours aux urgences pourrait être assez systématique. Je suis aujourd'hui en Belgique. En Belgique, c'est encore pire qu'en France. Le nombre de contacts aux urgences est de 290. Je le disais, 280 en France. Là, il y a un vrai sujet aussi en Belgique, mais qui tient à une autre raison. C'est le très très grand nombre de points de contact d'urgence dans ce pays, et dans certains cas avec justement le non problème de file d'attente aux urgences, puisque on considère qu'il y a même parfois pas assez de passages aux urgences pour avoir une qualité suffisante.
Yann Bourgueil.
Oui, je peut-être pour compléter ce que disait Pascal Garel, ce qu'il faut dire aussi aux Pays-Bas, c'est le poids très important des médecins généralistes, qui depuis 1941 joue un rôle de gatekeeper, le gardien de la porte, et un rôle de régulation et de l'accès. Et c'est vrai que la médecine générale a d'une certaine façon relevé le gant, et sans doute aussi peut-être sous l'influence des assureurs, s'est organisée pour répondre à la demande de soins non programmés par des coopératives organisées à l'échelon territorial, un petit peu comme ce qu'on souhaite développer en France aujourd'hui avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L'organisation du secteur ambulatoire, le rôle de certains acteurs qui ont des missions clairement définies et des moyens pour les réaliser, permet aussi de mieux organiser le système de soins.
que je comprends bien les choses, parce que c'est pas tout à fait clair, enfin, de mon point de vue, évidemment, sachant que je suis pas du tout un spécialiste, mais le fait que le système de santé soit comme ça aux mains des compagnies d'assurance, et je crois l'expression que vous avez utilisée, Pascal Garel, est-ce que ça fait de ce modèle-là un modèle privatisé, oui ou non?
Pascal Garel. Tout dépend ce qu'on définit par privatisation. Et puis, première chose, il y a deux types de privatisation. La privatisation à but non lucratif, c'est-à-dire que ceux qui sont les acteurs, les propriétaires, sont des organisations sans but lucratif, des fondations, des associations, etc. Et on a un secteur très important en France dans ce domaine. Et puis, il y a le domaine lucratif. Lucratif, c'est-à-dire commercial, si vous voulez, où là, les acteurs de soins, des individus ou des hôpitaux, des centres de santé, sont aux mains d'acteurs privés lucratifs, d'actionnaires, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc là, on est dans un cas de figure très particulier. En Belgique, par exemple...
Et ça revient à une privatisation. Enfin, ce sont les compagnies d'assurance qui sont des acteurs privés lucratifs et tout, à la fin...
Non lucratif. En l'occurrence, Pays-Bas, c'est non lucratif. C'est ça qui est intéressant. C'est non lucratif. On n'est pas dans une logique de lucrativité. Et je vous rappelle que les organismes de sécurité sociale française sont des organismes privés non lucratifs. On l'oublie un peu parfois. Encore une fois, on est dans cette logique bismarckienne à l'origine. On met en place un système avec des acteurs privés non lucratifs qui vont financer le système sur la base de cotisations d'employeurs et d'employés. L'exemple néerlandais qui est souvent cité comme premier, oui, bien sûr, il est premier dans un certain nombre de domaines, et notamment avec ces indicateurs que je vous ai donnés, mais sur d'autres, a quand même de fortes déficiences à... Pour revenir à ce que disait Yann, et je suis tout à fait d'accord avec lui, mais ce qui est intéressant dans la diversité des systèmes, c'est qu'un système comme celui du Royaume-Uni, et en particulier de l'Angleterre, qui a inventé ce principe de gatekeeper, de garde-barrière, c'est-à-dire de point de passage obligé pour le patient avant d'aller obtenir des soins spécialisés, donc le médecin généraliste, le problème, c'est que ça fonctionne pas en Angleterre, puisqu'on est à peu près au même nombre de passages, de points de contact aux urgences. Et c'est fascinant de voir qu'un système plus proche d'une autre bismarckien comme le sont les Pays-Bas, finalement a réussi à éviter ce problème d'engorgement des urgences.
Yann Bourgueil, et puis ensuite on va vraiment se pencher plus en profondeur sur le modèle anglais.
Oui, je suis tout à fait d'accord aussi avec Pascal, mais je pense qu'il faut peut-être aussi mettre en perspective le fait que le système anglais, il est d'emblée financé par l'impôt, très centralisé, et géré par l'État, et finalement historiquement rationné en fait. Et les dépenses d'ailleurs de santé globalement en Angleterre sont moins élevées, enfin en part de PIB, que le Pays-Bas. Donc les effets, si vous voulez, d'accès aux urgences sont témoignent d'un rationnement du système de soins, mais qui est le résultat de la politique du système de santé anglais. Et le système de santé anglais est connu pour ses listes d'attente, notamment pour des soins spécialisés, mais d'une certaine façon, ces listes d'attente font partie intégrante du système de santé anglais et en partie acceptée par la population. Donc c'est aussi l'histoire qui explique ça. Donc je crois qu'il faut replacer dans une perspective macroéconomique aussi.
Pas toujours très bien. Si vous revenez à l'hiver 2018, janvier 2018, Theresa May est obligée de se déplacer dans un hôpital pour s'excuser auprès précisément des patients anglais dont il a fallu repousser les opérations. Souvenez-vous.
Absolument.
Je reconnais que c'est difficile pour les patients qui doivent subir ces retards pour leur admission à l'hôpital ou qui voient leur opération repoussée. Nous espérons que ces opérations pourront être reprogrammées le plus tôt possible. Je sais que c'est dur, frustrant, et je m'en excuse auprès des patients.
Alors, dans le cas anglais, non britannique, Yann Bourgueil, crise structurelle ou crise conjoncturelle ?
Je pense plutôt crise structurelle, qui témoigne le fait que depuis longtemps, en Angleterre, on limite les ressources du système de santé, et notamment dans le système hospitalier public, qui fait que dès qu'il y a une épidémie, les capacités hospitalières sont rapidement dépassées parce qu'on a réduit les capacités hospitalières. Mais d'une certaine façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système anglais est conçu comme ça. Nous, en France, on cherche plutôt à progressivement rationaliser un système qui, au départ, était très dépensier. On est quand même en deuxième position derrière l'Allemagne. On parle de dépenses du PIB.
Pascal Garel, même question. Et puis, je vais vous peut-être en introduire une nouvelle parce que on sait bien ce que c'est la libéralisation, sauf que en réalité, dans le secteur de la santé, il faut toujours regarder un peu de quoi on parle parce que en Angleterre, le système, il est en théorie libéralisé. Ça, c'est pour la théorie, mais je crois qu'en pratique, les choses ne sont pas aussi claires. L'inscription des acteurs privés dans le secteur n'est pas aussi évidente que ça, Pascal Garel.
Oui, je réponds donc à votre première question.
Je vous en prie.
Ce qui est fascinant, c'est que la couverture médiatique de l'hiver 2017-2018 a été sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître les années auparavant. Et ça, justement, essaimé aussi dans la presse française. La pression l'hiver 2018-2018 a été à peu près la même. Il y a à peu près les mêmes résultats de nombre d'opérations annulées, etc. Mais une couverture médiatique beaucoup plus faible. Il y a une raison à ça, c'est le Brexit, c'est-à-dire qui a monopolisé l'attention aussi bien au Royaume-Uni qu'en Europe sur ce sujet. Mais la crise, effectivement, elle était encore là cet hiver, avec les mêmes conséquences, les mêmes conclusions dans ce domaine. Revenir sur la privatisation, ça aussi c'est un élément intéressant. La logique initiale du système tel qu'inventé par Beveridge, ce conseiller de Churchill, dans la Seconde Guerre mondiale, c'était une logique très simple. L'argent public va au public. Donc, comme le disait Yann tout de suite, le financement du système public NHS, financé par le budget de l'État. La première réforme, grande réforme qui a été faite, c'était du temps de Margaret Thatcher, mais elle n'est pas allée au bout de sa logique libérale. C'est en fait Tony Blair qui est allé beaucoup plus loin. Encore une fois, pour cette idée de réduire le temps d'attente et derrière ça les listes d'attente de longue attente, Tony Blair a dans un premier temps eu une petite démarche machiavélique, donc on a un petit peu oublié en France, c'était d'humilier en fait le NHS en envoyant des patients en nombre peu significatif en France. Il y avait un Eurostar avec 50 journalistes et une dizaine de patients qui montrait le NHS n'est plus capable, et c'était en 2001, n'est plus capable de résoudre ce problème. Et ensuite, il a fait passer un certain nombre de dispositions, augmenter le salaire des médecins spécialistes du système et progressivement autoriser à des acteurs privés, au départ étrangers puis nationaux, à essayer de résorber les listes d'attente d'un certain nombre de pathologies chirurgicales, prothèses de hanches, de genoux, etc. Ce qu'il a réussi d'une certaine manière, il a injecté 2 points de produit intérieur brut de plus dans le système. Et donc, d'une certaine manière, effectivement, on a réussi à réduire pendant cette période de 10 ans les longs délais d'attente. Et on a mis en place un certain nombre de dispositions, comme par exemple ce critère, cette évaluation de 4 heures d'attente aux urgences. 4 heures d'attente aux urgences, c'est l'indicateur des urgences. 4 heures, ça veut dire 4 heures éventuellement sur un brancard, mais le problème est résolu avant 4 heures ensuite. Et tout ça, aujourd'hui, subit le contre-coup de la croissance des demandes aux urgences, la réduction du nombre des médecins généralistes, 600 qui partent chaque année à retraite, et pas de renouvellement. Donc il y a un ensemble de facteurs structurels qui viennent ramener à une situation ancienne où on retrouve des longues listes d'attente, des temps d'attente assez long et des fortes listes d'attente dans le système, qui est encore une fois une façon de gérer le système, comme le disait Yann Bourgueil.
Oui, la crise était un peu inévitable avec effectivement cette augmentation de besoins avec l'augmentation de la population, couplée à cette question du personnel médical qui est largement en baisse. En 2009, les Britanniques disposaient de 9,75 infirmières pour 1000 habitants contre moins de 8 aujourd'hui. Et pour les médecins, c'est 2,81 pour 1000 habitants contre 3,35 pour ce qui est de la France. Donc on voit bien que finalement la crise était évidente.
Vous me permettez d'ajouter.
Je vous en prie, puis je passe la parole à Yann Bourgueil.
Oui, oui. Un point important aussi, parce qu'il ne faut pas tout jeter sur Tony Blair, c'est aussi David Cameron. Et une politique de David Cameron, ça a été de revenir sur le fantasme des années 30 et se dire le secteur social, finalement, c'est pas notre priorité. Ce qui fait qu'il y a eu un surcroît d'arrivées aux urgences de personnes qui, autrefois, étaient bénéficiaires du secteur social, médico-social, comme on dirait en France, en Angleterre.
Alors, c'est la réforme dite Lancelet, si je ne m'abuse. Voilà, c'est exactement là où j'allais en venir, précisément, Yann Bourgueil. Alors, à la fois, peut-être, votre regard sur les premières réformes des années 2000 avec Tony Blair, et puis la réforme, on est en 2012, dite Lancelet, qui est une importante... une réforme très très importante, peut-être plus la plus importante, dit-on, enfin de ce que j'ai lu, en tout cas pour préparer cette émission, depuis la création du système de santé en Angleterre, sur cette deuxième vague de réformes qui a maintenant moins de 10 ans.
Bah, sur, c'est tout à fait
Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette réforme de 2012, Lansley? Ah bah Pascal Garrel, alors tiens, je vous relance et puis je repasse la parole à Yann Bourgueil. Pascal Garrel, cette réforme Lansley.
Le système du Royaume-Uni, et j'insiste toujours sur cette particularité anglaise, parce qu'il y a 4 pays comme au rugby, il y a 4 systèmes de santé, hein, au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Donc je me focalise sur effectivement l'Angleterre. L'Angleterre est fondamentalement un régime libéral de protection sociale, où l'idée, c'est originellement, on va couvrir seulement les plus pauvres dans le système, on va avoir des politiques sociales ciblées. La seule exception à ça, c'est justement le NHS. Et tous les premiers ministres ont essayé plus ou moins de réformer, depuis les 30 ans, ont essayé de réformer ce NHS sans vraiment y toucher. Ce qui a été majeur dans la réforme Cameron, c'était de se dire, puisqu'on a une croissance très forte du secteur santé, que les moyens sont réduits et qu'il faut se désendetter, eh bien, on va, d'une certaine manière, laisser tomber le secteur social. On va réduire toutes les politiques qui permettaient justement à une partie de la population la plus pauvre, plus ciblée, plus âgée, de recevoir des prestations qui les maintenaient à domicile, qui maintenaient dans un réseau social. Et c'est ce qu'on voit arriver ensuite, très vite, dans le NHS, aux urgences, des durées d'attente plus longues, des séjours plus longs dans le système, qui, encore une fois, comme vous l'avez dit, se réduit en termes de ressources humaines pour plusieurs raisons.
Yann Bourgueil.
Oui, c'est finalement un petit peu le enfin, exactement ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire et ce que recommande aujourd'hui un peu toutes les analystes, c'est de renforcer au contraire les systèmes sociaux, de renforcer la prise en charge des personnes âgées dépendantes, de favoriser le maintien à domicile avec des aides qui sont pas nécessairement médicales mais beaucoup plus sociales. Donc et ça pour le coup, la plupart des systèmes de santé en Europe sont confrontés au même problème, vieillissement de la population, maladies chroniques, des troubles cognitifs. Donc c'est vraiment en renforçant en fait le système social et médico-social et les soins de proximité qu'on pense aujourd'hui pouvoir éviter en fait un recours inapproprié finalement aux urgences.
On va évoquer dans un instant avec vous Yann Bourgueil le cas allemand qui est peut-être intéressant parce qu'il y a des vraies similitudes avec la France et en même temps de véritables différences. Donc on va essayer de faire un jeu de comparaison avec les deux. Mais pour finir peut-être sur ce cas anglais, Pascal Garrel, on se souvient bien sûr de cet argument des Brexit qui expliquait que l'argent donné à l'Union européenne allait enfin pouvoir être utilisé dans le système de santé, avec des chiffres qui étaient un peu saugrenus, et c'est un euphémisme. Est-ce que le Brexit va enfin sauver le système de santé anglais ?
Non, là c'était le machiavélisme des Brexiteurs d'avoir utilisé le NHS, qui est encore une fois le service public qui est le seul qui reste au Royaume-Uni. Ils ont tout abandonné, y compris les transports, donc effectivement il leur restait que ça, et donc c'était une corde sensible, mais c'était complètement du vent. Évidemment, non, ça ne va rien changer, et c'est pas une réinjection de cette somme dérisoire qui était citée sur le bus qui circulait au Royaume-Uni qui va changer quoi que ce soit.
Et est-ce que ça pourrait s'aggraver? Parce que, alors, là, j'ai regardé
quelque
chose. Bien
sûr, ça va s'aggraver.
Il y a un article que j'ai lu, Pascal Garrel, en préparant cette émission, et je voudrais votre avis là-dessus. Visiblement, alors, on sait bien que l'objectif de Boris Johnson, c'est de passer un nouvel accord avec les États-Unis. Et il se trouve que, visiblement, Donald Trump a évoqué la possibilité d'inclure le NHS, donc le système de santé, dans un futur accord. Donc, ça veut dire que, potentiellement, les compagnies américaines pourraient débarquer dans le secteur de la santé en Grande-Bretagne ces prochaines années. On imagine que les conséquences ne seraient pas forcément toutes excellentes, Pascal Garrel.
Oui, c'est clair. C'est un sujet qui traîne depuis bien avant Donald Trump, qui est stigmatisé sur beaucoup de choses, mais en tout cas, ses prédécesseurs aussi ont fantasmé sur le grand marché de la santé européen. Lorsqu'on représente 10% du PIB en moyenne en Europe, évidemment, on devient un secteur intéressant. Quand vous avez un système américain relativement inefficient sur beaucoup de plans et très efficient sur d'autres, mais qui a surtout une force commerciale très importante, évidemment, le système européen est est un fantasme important. Donc oui, ça pourrait changer beaucoup de choses au Royaume-Uni, mais encore faudrait-il qu'ils aient la capacité de le financer et aussi de le faire fonctionner. Mais ce sera le sujet de votre émission sur la migration des professionnels de santé.
Absolument, merci.
Aujourd'hui, aujourd'hui, le NHS est un énorme bénéficiaire de la construction européenne.
Yann Bourgueil, l'Allemagne. Quand on regarde un peu les systèmes de santé allemands et français, on voit qu'il y a des points communs, notamment sur la question des dépenses, qui sont à peu près comparables. On est un peu plus de 10% du PIB de part et d'autre. Et pourtant, les situations financières des systèmes de santé n'ont rien à voir. L'assurance maladie allemande parvient à dégager des excédents. 12 milliards d'euros sur la période 2000-2014. C'est long soit, mais quand même des excédents, ce qui est loin d'être notre cas. Comment l'Allemagne est parvenue à faire ce tour de force?
D'abord,
et jusqu'où la comparaison tient avec la France?
Oui, voilà. D'abord, l'économie allemande va bien.
Donc, jusqu'ici, Jérémy.
Oui, jusqu'ici. Justement, ça va être intéressant de voir comment les Allemands vont s'adapter peut-être à une récession économique. Mais d'abord, l'économie allemande va bien. Donc, elle finance largement le système de santé. Ensuite, ils ont des mécanismes très stricts de limitation depuis longtemps des croissances de dépenses qui sont ajustées complètement sur le taux de croissance du PIB. Donc, ils ont des mécanismes de régulation anciens qui fait qu'ils peuvent pas avoir de déficit important. Ce qui est important de dire aussi, c'est que la dépense, la part de PIB est la même, mais la dépense per capita est quand même beaucoup plus élevée. Donc,
En Allemagne.
Donc, ils ont un système plus riche. Mmh. Ils dépensent plus que nous par habitant. Donc, ça explique en grande partie en tout cas, c'est la richesse globale qui explique que l'Allemagne aille bien.
Alors, les résultats ont l'air meilleurs sur le plan financier, sur le plan budgétaire, mais quand on regarde un peu de près, l'Institut berlinois pour la recherche sociale et sanitaire a publié une étude assez récemment dans laquelle il est recommandé tout simplement de fermer près de la moitié des hôpitaux. Sur les 1400 hôpitaux, moins de 600, nous dit le rapport, seraient nécessaires, moins de 600 institutions hospitalières seraient nécessaires en réalité pour l'ensemble du pays. L'Allemagne a trop d'hôpitaux?
Alors c'est amusant ce que vous dites, parce que souvent dans les comparaisons internationales, on est fasciné par le fait que le poids de la dépense hospitalière en Allemagne est faible par rapport à la dépense française. Donc ils ont peut-être beaucoup d'hôpitaux, mais leurs hôpitaux leur coûtent moins cher.
Enfin, c'est pas ce que dit l'étude, puisqu'ils préconisent d'en fermer la moitié à peu près.
Alors, comme quoi les comparaisons internationales sont délicates, mais la caractéristique du système allemand, c'est d'avoir une cloisonnement très fort entre le système ambulatoire et le système hospitalier. Mmh. Ils sont des ratios par lit d'hôpital infirmiers et médecins qui sont inférieurs à ce que nous avons. Donc ils ont peut-être une façon d'utiliser l'hôpital qui est différente.
8 lits pour 1000 habitants sur l'Allemagne. Il paraît que c'est un record en Europe.
Oui, mais un indicateur d'un lit, il faut savoir ce qu'on met dans le lit, quels sont les moyens qu'on affecte au lit, quel est l'environnement, quels sont les... C'est pas tellement les lits qui coûtent cher dans le système de santé, c'est la ressource humaine. Ça représente à peu près 2/3 de la dépense d'un système de santé. Donc le lit est un indicateur peut-être de moyens et de disponibilité, mais c'est surtout la ressource humaine en fait qui est le principal poste de dépense.
Pascal Garel, sur ce cas allemand.
Le cas allemand est intéressant parce que c'est vrai qu'il est souvent pris en exemple. Donc je reviens pas sur ce que vous avez posé comme question. C'est évidemment, comme on est dans un système d'assurance sociale, plus les recettes sont élevées, plus effectivement il est facile d'avoir un excédent. Surtout, comme le dit Yann, lorsqu'on contrôle le système. Le système allemand est surtout réputé par la très longue durée de séjour. On reste très longtemps dans l'hôpital allemand. Alors ça s'est réduit, mais on reste double ou triple par rapport à certains pays. Donc il y a des éléments peut-être qui peuvent expliquer cette prise de position. Il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup moins d'hôpitaux en Allemagne qu'en France. Donc ça pose effectivement la question aussi pour la France. Donc oui, réduire le nombre d'hôpitaux, probablement sur la base d'un calcul arithmétique de durée de séjour qu'il faudrait réduire. Et effectivement, tout ça est très très mécanique et je pense pas que ce soit vraiment la bonne réponse ou la bonne question qui soit posée à l'Allemagne.
Diane Bourgueil.
Oui, pour revenir un peu sur les comparaisons un peu hâtives, il faut savoir qu'en Allemagne, l'activité hospitalière de consultation est très faible. Or, nous avons beaucoup de consultations de spécialistes à l'hôpital en France. Peut-être trop. Peut-être à l'inverse, en Allemagne, vous avez une très grosse quantité de médecins généralistes et spécialistes. Donc, il y a une grande partie finalement de la demande de soins qui est absorbée par le système ambulatoire. Donc, les activités finalement ne sont pas exactement les mêmes. La règle absolue en Allemagne, c'est qu'on est dans un hôpital quand on doit être allongé dans un lit. Donc, c'est vraiment, je crois, il faut regarder plus en détail.
Yann Bourgueil, est-ce qu'il est possible de faire une typologie des grands modèles hospitaliers en Europe? Première question, et puis la deuxième qui sera tout au moins aussi sensible, celle de savoir l'effet qu'a eu l'intégration européenne. Je veux dire, est-ce que, basiquement, on peut se dire que, en gros, à peu près tous les modèles en Europe sont allés vers plus de privatisation, sachant que, on l'a dit tout à l'heure, quand on parle de privatisation dans le domaine de la santé, il faut regarder exactement ce qu'il y a derrière. Mais en gros, et sur la question de la typologie, est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui une, et l'effet de l'intégration européenne, Yann Bourgueil?
Bien, alors sur la typologie, c'est amusant que vous posiez cette question. Moi, j'ai surtout travaillé sur les typologies des modèles d'organisation ambulatoire, qui en fait déterminent aussi les fonctions que l'on attribue à l'hôpital. Ce qu'on sait, c'est que vous avez des systèmes où on va donner un rôle très défini, très important au système de soins ambulatoires, alors soit aux généralistes comme aux Pays-Bas, comme en Angleterre, qui de plus en plus d'ailleurs sont amenés à travailler en équipe. Et à ce moment-là, les activités spécialisées sont faites principalement à l'hôpital. Soit vous avez des systèmes où les fonctions ne sont pas très claires, les frontières n'ont pas été définies en amont, et c'est la France, surtout la France, la Belgique également, où vous pouvez avoir de l'activité spécialisée en ville, de l'activité spécialisée à l'hôpital, et finalement des frontières moins floues, différentes portes d'entrée dans le système. Et puis vous avez des systèmes beaucoup plus normés, on va appeler normatifs, qui sont plus récents finalement, qui ont été construits dans les années 80. L'Espagne est un bon exemple, mais vous avez la Finlande, la Suède, où on va donner des missions très claires à des centres de santé. Alors c'est même plus les médecins généralistes, c'est des centres de santé dans lesquels travaillent des médecins généralistes, mais en équipe, et souvent financés par les municipalités, par les collectivités locales, et l'hôpital est géré à un échelon plus élevé. À ce moment-là... les missions sont plus réparties. Donc peut-être que dans la typologie des systèmes, il y a soit on clarifie vraiment les missions des uns et des autres en termes de niveau de soins et niveau de recours, et à ce moment-là on voit bien une différence. Et je dirais que plus on a clarifier le rôle de la première ligne de soins dans lequel on peut mettre des hôpitaux d'ailleurs, mais des hôpitaux de proximité, il semble aujourd'hui, il y a un consensus pour dire que ce sont des systèmes qui semblent les plus intéressants pour l'avenir. Pour revenir sur l'intégration européenne,
Et je vous laisse sur l'intégration, ce que je n'entends pas dans votre propos, c'est l'idée d'une différenciation entre des modèles vraiment bismarckiens et des modèles beveridgiens, ce qui laisse croire qu'en réalité, type de distinction aujourd'hui n'est plus pertinent.
En tout cas, pas pour caractériser l'organisation des systèmes de santé. Les systèmes beveridgiens sont caractérisés par le fait que l'État joue un rôle beaucoup plus important dans la régulation. Les systèmes d'inspiration bismarckienne sont des systèmes où, effectivement, ce sont les assurances sociales qui jouent un rôle plus important, avec plus ou moins de concurrence. Pascal Garel a parlé des Pays-Bas, dans lesquels on a une concurrence régulière. On pourrait parler de l'Allemagne, où c'est le même phénomène, qui sont censés aussi introduire plus d'innovation, plus de possibilités d'innovation.
La France est entre les deux.
Sur la question de l'intégration, ce qu'on peut dire, c'est que l'intégration se fait principalement aujourd'hui à travers la production, l'harmonisation des mesures, l'harmonisation des critères de comparaison. Et on a beaucoup progressé en France à travers maintenant on est capable vraiment de sortir des indicateurs de performance en termes de résultats de santé, en termes d'accessibilité, d'efficacité, de dépenses, d'inégalité sociale, qui permettent de comparer les systèmes de façon extrêmement intéressante.
Mais est-ce qu'on se contente, Pascal Garel, de comparer les systèmes et de dire aux États membres, allez-y, regardez quels sont les meilleurs et puis imitez-les, ou est-ce qu'il y a vraiment des directives, des préconisations qui viennent de Bruxelles pour dicter un peu le sens des réformes des États membres dans le domaine de la santé?
Ah, la pieuvre bruxelloise vous fait peur. Mais non,
ah non, pas
vous
du
vous
tout, non,
pas.
Ni peur ni pas peur d'ailleurs. Je n'ai rien contre elle, bien au contraire.
Je vous blague. Je reviens pas sur les typologies, parce qu'on a assez peu de temps, mais sinon sur les effets de l'intégration, il y a deux phénomènes importants qui sont peut-être plus importants que l'intégration européenne. C'est pour le sud de l'Europe la chute des dictatures. Portugal, ça nous ramène un peu loin, je sais, mais la chute des dictatures au Portugal, en Espagne et en Grèce, et les changements politiques en Italie font que dans les années 70 et au début des années 80, on a des systèmes, on va dire originellement bismarckiens, qui essayent de se transformer en beveridgien. Donc il y a des fusions entre systèmes importants. Le deuxième grand élément historique, et on va le fêter dans quelques jours, c'est la chute du mur. La chute du mur, on est dans un système soviétique pour trois des États membres de l'Union européenne, les trois États baltes, et puis d'inspiration soviétique dans le reste de l'Europe, avec la spécificité yougoslave, mais la spécificité d'Allemagne de l'Est, etc. Tout ça va s'effondrer, pas complètement, mais va s'effondrer fortement et va conduire ces pays à essayer d'imaginer autre chose. Et forcément, quand on refuse un système dit Semachko, donc d'Union soviétique, à ce moment-là, on va s'inspirer, on va aller voir les Bismarckiens, on va aller voir les Belges, les Français, les Allemands. Et donc là, on est dans une fusion de systèmes, de tentatives plus ou moins réussies, avec des écarts très importants. Ensuite, il y a l'intégration européenne. Elle est réelle, elle existe sur plein d'éléments. Bien sûr, la compétence des États membres reste essentielle dans l'organisation, et surtout, il y a un facteur qui va aussi, de certaine manière, réduire l'intégration européenne, c'est le caractère régional. Yann en a un peu parlé. On a une décentralisation très forte de la quasi-totalité de tous les systèmes, d'une façon ou d'une autre. Donc, les Européens sont aussi attachés à leurs systèmes de santé nationaux, mais aussi à leurs différences régionales. Donc, oui, dans certains cas, on a vu une influence est plus large que l'Union européenne, c'est la Troïka. Souvenez-vous, au moment de la crise économique et financière, on a imposé un certain nombre de pays. On connaît assez mal ce qui s'est passé en Lettonie, en France, mais c'était bien pire que ce qui s'est passé en Grèce. Mais en Grèce, on a effectivement imposé un certain nombre de dispositions venues d'une certaine pensée qui allait dans un certain sens. Et donc là, très clairement, il y a une influence.
Yann Bourgueil, peut-être en quelques mots, et puis ensuite on va regarder du peut-être... côté des États-Unis et accueillir Anne de Guerre. Anne de Guerre.
Juste rappeler qu'un facteur d'intégration qui est à l'œuvre depuis quelques temps, c'est à travers l'équivalence des formations et des diplômes et des qualifications qui permet en fait le mouvement des professionnels de santé en Europe. Ça, je pense, c'est un facteur très fort d'intégration. Le fait maintenant que tous les systèmes se calent sur la licence, master, doctorat, a un effet très important et qu'on retrouve d'ailleurs dans les déplacements en fait de ressources humaines. Les autres facteurs d'intégration sont les politiques plutôt de santé publique traditionnelles sur les risques, où là, on va avoir une même démarche. Par contre, il est vrai que tout ce qui relève de l'organisation du système de santé, c'est vraiment dépendant de l'organisation politique, de l'histoire, en fait, de chaque pays, voire même le découpage de certaines professions n'est pas le même selon les pays. Donc ça, c'est effectivement très, très difficile, je pense, à intégrer.
On est avec vous, Yann Bourgueil et Pascal Garel, depuis Bruxelles, dans cette nouvelle série consacrée à la santé. Aujourd'hui, crise des hôpitaux, crise des systèmes. On parle beaucoup de l'Europe, mais on va regarder ce qui se passe du côté des États-Unis.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
En 2010, on s'en souvient, Barack Obama lançait une mesure phare de son mandat en introduisant une couverture de santé accessible à tous, réduisant le nombre de personnes non assurées. L'Affordable Care Act, retenu sous le nom d'Obamacare, fait partie de l'héritage de Barack Obama que Donald Trump a toujours l'ambition de liquider. Bonjour Anne Daguerre.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur associé à l'Université du Middlesex de Londres, auteur notamment d'un ouvrage sur l'héritage social d'Obama, dans lequel il est notamment question, bien sûr, de cette mesure qu'il avait lancée au début de son mandat. On a coutume de lire, Anne Daguerre, que cet Obamacare a eu pour effet de diminuer considérablement le nombre de personnes non assurées aux États-Unis. On parle d'un chiffre qui va jusqu'à 20 millions de personnes. Est-ce que ce chiffre, d'abord, correspond à la réalité? Et plus généralement, je voudrais qu'on essaie de dresser un bilan de cette loi, Anne Daguerre.
Oui, alors le chiffre de 20 millions, oui, il est réel, hein, ça correspond à la réalité, bien sûr. Il faut savoir que sur les 20 millions, le plus important, ça a été l'expansion de Medicaid, qui est l'équivalent de la CMU en France, hein, donc pour les personnes à bas revenus. Voilà. Quant au bilan, le bilan il est quand même globalement positif. Simplement, Obamacare a été attaqué dès son inception depuis 2010 par les Républicains de manière constante, à la fois au niveau des États, à la fois au niveau des tribunaux. Donc sa mise en œuvre a été quand même très inégal et surtout c'est un système qui est très très complexe et qui a conservé si vous voulez tous les acteurs multiple du système de santé états-unien.
Anne Daguerre, on va revenir évidemment sur les différentes attaques de Donald Trump à l'endroit de cet Obamacare, attaques politiques, attaques judiciaires, etc. Mais vous avez dit un bilan globalement positif. Regardons ce qui a été négatif. Les critiques que vous formuleriez à l'égard de cette loi.
Les critiques, c'est d'abord c'est d'abord une question de message, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un système de santé qui n'a pas réussi à surmonter les difficultés qui tiennent à la très grande complexité des acteurs qui sont partie prenante, notamment la prise en charge des assurances, des hôpitaux, être assuré à bénéficier d'une couverture de santé aux États-Unis aujourd'hui, ça a toujours été d'une complexité extrême. C'est-à-dire qu'il y a, c'est un système qui est très peu lisible pour les usagers. Et cette complexité, elle n'a pas été simplifiée, au contraire, elle a été multipliée par l'Obamacare.
Voilà, donc peut-être l'une des critiques que vous formuleriez. On sait que, bien sûr, Donald Trump n'a jamais réussi à faire abroger l'Obamacare, et notamment parce qu'il y a un certain nombre de républicains qui étaient opposés. On peut penser, par exemple, à feu John McCain, mais il y en a d'autres. Mais ça n'empêche pas l'actuel président de s'en prendre à cette loi, à cette réforme maladie. Comment, très concrètement, Donald Trump a-t-il fait pour affaiblir ce système?
Il a tout simplement par l'asphyxiant financièrement. C'est-à-dire que l'Obamacare dépend pour sa survie, par exemple, il y a deux conditions sine qua non. D'un côté, ce qu'on appelle les marketplaces, health insurance marketplace, qui était l'une des réformes phares de l'Obamacare et qui est la plus difficile à mettre en œuvre et surtout à sauvegarder parce qu'il faut quand même qu'il y ait un système d'argent public qui s'y mette. Donc ça a été une chose. Et l'autre chose, c'est tout autour des Medicaid expansion. C'est-à-dire que l'Obamacare avait dit aux États, vous élargissez le pool des non-assurés, notamment via Medicaid. On vous finance à 100% jusqu'à 2017. Et après, à partir de, ça sera simplement 90%. Mais c'était un très bon deal pour les États. Mais ce deal pour les États repose évidemment sur un investissement fédéral massif.
Les
républicains, notamment, que Trump a taillé dans le vif.
Anne Daguerre, encore un mot, puis ensuite je vais faire réagir nos invités ici en studio et puis à Bruxelles. On a dit Trump, pour l'instant en tout cas, n'a pas réussi à abolir cet Obamacare, même s'il l'a considérablement affaibli. Il a déjà dit qu'en cas de victoire en 2020, il allait essayer de faire passer une nouvelle réforme de santé. Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi ressemble le système de santé à la Trump?
Trumpcare, c'est vraiment... C'est un système qui revient sur tous les acquis, non seulement de l'Obamacare, mais surtout des programmes de la Great Society des années 1960, c'est-à-dire une privatisation accélérée, aucune garantie pour les populations les plus pauvres. Hein. C'est ce qui est dans le viseur de Trump, c'est avant tout Medicaid. Et ce que je vous ai dit, c'est l'équivalent de la CMU en France. Et c'est ça qu'ils veulent vraiment démanteler.
C'est la dimension universelle du système. Sachant que là, on parle de Donald Trump, mais si on regarde du côté des démocrates, il y a ici beaucoup de débats. Il y a eu d'ailleurs un débat organisé entre les 10 principaux candidats pour l'investiture démocrate. C'était le 12 septembre dernier. Et l'un des premiers sujets abordés, ça a été précisément la question de la réforme du système de santé, avec des divergences extrêmement fortes qui sont apparues entre les candidats. avec d'un côté ceux qui sont, disons, le plus à gauche, Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, et les plus centristes comme Joe Biden, les premiers appelant carrément à la fin des assurances privées et la création d'une couverture de santé universelle un peu sur le modèle européen, au fond, et puis le second qui veut conserver ce modèle hybride pour éviter de devoir précisément augmenter les impôts, parce que vous l'avez dit, ça coûte très cher. Donc on voit qu'aussi du côté démocrate, c'est un sujet et qu'on est très très loin d'être d'accord. Yann Bourgueil, réaction sur ce cas américain, et puis ensuite Pascal Garel.
Bon, c'est vraiment navrant de voir ce très grand pays, très moderne, qui finalement n'arrive pas à installer ce qui a été fait finalement après la Deuxième Guerre mondiale dans la plupart des pays d'Europe, à savoir une cotisation obligatoire, une participation obligatoire de tous pour la solidarité pour tous. Et c'est vrai que vous disiez, enfin, c'est une idée de gauche. C'est-à-dire, chacun finance selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins. C'est pratiquement écrit dans le Capital de Marx. Donc c'est une, si ça a été mis en place effectivement en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce qu'il y avait eu ces traumatismes très importants. Après, dans les années 60, la création de Medicare était vraiment une voie. Medicare et Medicaid était une voie vers ce système universel. Les intérêts, alors peut-être la taille du pays également qui peut expliquer, parce qu'il faut comparer finalement les États-Unis à l'Europe, peuvent expliquer les intérêts très nombreux qui sont présents aux États-Unis, puis peut-être un rapport particulier à l'État fédéral, à l'idée d'une solidarité qui s'impose, parce que c'est quand même bien ça dont il s'agit dans nos pays et qui est régulièrement menacé, c'est-à-dire et qui pose un peu la question de la capacité de nos systèmes à maintenir en fait ce principe de solidarité qui est basé sur l'obligation et sur l'équité.
Tout dernier mot, Pascal Garel, votre regard depuis Bruxelles sur ce cas états-unien. Mais, en quelques mots, on arrive presque au terme de cette émission.
Oui, on a de très bonnes choses qui viennent des États-Unis de temps en temps. Par exemple, la santé populationnelle, qui est un sujet à l'heure du jour dans beaucoup de pays, c'est-à-dire d'essayer de bien cibler la réponse aux besoins des patients de tout type. Mais ce que ça nous renvoie surtout à un sujet de solidarité, parce que si vous regardez très bien les chiffres attentivement, il y a 5 pays européens qui sont moins solidaires en termes de protection sociale totale, pas de santé, hein, que les États-Unis. Ça nous renvoie aussi au fait qu'un certain nombre de pays européens, malgré ce modèle social européen, malgré cette obligation d'assurance, eh bien doivent couvrir la moitié des frais de leurs frais de santé. Donc il y a une solidarité à dimension variable en Europe. Et ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai enjeu. Parce qu'on a, en Europe, des systèmes plutôt libéraux, des systèmes plutôt sociodémocrates. Et puis, ce qu'appelait Gustav Spang-Andersen, un chercheur danois, des corporatistes conservateurs. Donc, tout ça est en jeu à l'Europe. Et ça explique aussi notre diversité et parfois les difficultés de fonctionnement de ces systèmes.
Vacances à l'hôpital, je ne sais si je vais mal, mais j'étais si bien sans vous. Dans les journées ensoleillées, comme je sentais tout à coup mon cœur chavirer en regardant les ombres danser et les autos circuler. Je pensais bien que j'oublierai toutes mes vacances à l'hôpital.
Merci beaucoup à tous nos invités. Anne Daguerre qui était avec nous par téléphone à l'instant. Yann Bourgueil, merci d'avoir été avec nous ici à Paris. Pascal Garel, un grand merci d'avoir été en duplex depuis Bruxelles. Et je remercie également Pierre Benazé qui a aidé à la mise en place de ce duplex. On le remercie vivement. On poursuivra demain notre série consacrée à la santé. Mais pour l'heure, c'est Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Le président du Royal Institute of International Affairs vient de mettre en ligne un texte qui mérite notre attention, Brice.
Oui, ce célèbre think tank britannique, aussi connu sous le nom de Chatham House, fêtera l'an prochain son 100e anniversaire. C'est une institution aussi prudente que vénérable. Son président, Jim O'Neill, qui a été secrétaire au Trésor dans le gouvernement de David Cameron, résume dans ce texte, largement reproduit aujourd'hui, ce qui lui semble être les priorités dans les affaires du monde. Pour lui, il y a aujourd'hui trois grands sujets d'inquiétude. D'abord un problème économique, l'étrange ralentissement de la productivité de nos appareils de production. Ensuite un problème politique, l'érosion de la confiance dans les possibilités de la démocratie chez les peuples qui en bénéficient pourtant. Enfin, un problème de relations internationales, le danger que fait courir au reste du monde la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Or, ces trois problèmes sont, dit-il, logiquement liés entre eux. Prenons-les un par un. C'est Robert Gordon, un célèbre professeur d'économie américain, qui le premier, en 2016, a mis en lumière l'étrange phénomène dans son livre à succès, non traduit en français, « The Rise and Fall of American Growth ». Depuis une bonne vingtaine d'années, disait-il, à présent, la productivité des entreprises américaines stagne. Même chose en Europe. Comme l'introduction de l'énergie électrique avait galvanisé la productivité des usines au début du XXe siècle, on s'attendait à ce qu'elle s'envole à nouveau sous l'influence de la révolution numérique et de l'automatisation. Un même employé est censé produire davantage de valeur ajoutée en utilisant ses véritables multiplicateurs de son travail. Le fait que tel n'ait pas été le cas depuis 20 ans, à bien des égards, demeure un mystère. Alors pour le professeur Gordon en question, c'est parce que le numérique ne concerne en réalité qu'un nombre limité d'activités. Mais d'autres, comme Michael Spence, mettent en cause la politique monétaire des banques centrales. Elles ont incité les entreprises à racheter leurs propres actions plutôt qu'à investir dans de nouveaux outils de production. Et c'est aussi le diagnostic que fait donc Jim O'Neill. Les entreprises en place ne sont pas efficacement concurrencées par de nouveaux venus plus novateurs. Leurs profits leur viennent davantage de montages financiers que d'investissements intelligents. Alors les plus optimistes conseillent d'attendre avant de diagnostiquer, comme Larry Summers, une stagnation séculaire des économies des pays capitalistes. Les technologies nouvelles mettent parfois du temps à produire leurs effets, nous verrons. Mais dans des pays comme les nôtres, vieillissants, où le pourcentage de la population capable d'occuper un emploi décline, eh bien les gains de productivité sont indispensables pour compenser un moindre nombre d'heures travaillées, si l'on veut maintenir évidemment le niveau des salaires et un haut niveau de protection sociale. Tant que la productivité s'envolait, que la croissance était au rendez-vous, eh ben les salaires progressaient. Cela a favorisé, dans les années 90, écrit Jim O'Neill, le fameux consensus néolibéral. Cela s'est traduit politiquement par les victoires de ces nouvelles gauches décontractées, optimistes et pro-business à la Bill Clinton ou à la Tony Blair.
Mais le climat moral, Brice, a changé ces 15 dernières années.
Hein. Oui, il est devenu sacrément morose. Les gens constatent que leurs revenus n'augmentent plus guère. Ils devinent en outre que les systèmes de protection sociale ne sont plus réellement financés. De sérieuses inquiétudes pèsent en particulier sur les retraites. Les partis traditionnels ayant été incapables de rassurer les électeurs à ce propos, ça a été la chance de politiciens marginaux, de droite comme de gauche. Soudain, ils paraissent susceptibles d'apporter des résultats que le système en place produit de moins en moins. Leurs promesses sont peu crédibles, admet Jim O'Neill, mais les partis du centre, eux, doivent cesser la politique de l'autruche, à savoir dénoncer le populisme et promettre que tout va rentrer dans l'ordre tout seul, parce que cela ne sera pas le cas. Le problème n'est pas, écrit-il, que des forces populistes nouvelles et effrayantes sont en train de détruire le modèle économique de l'après-guerre, c'est plutôt le contraire. La montée en puissance de nouveaux mouvements politiques est le résultat logique de la période antérieure de consolidation néolibérale et de l'échec de la pensée centriste à produire les résultats qu'elle apportait auparavant. Mais finalement, le plus préoccupant des trois problèmes, c'est le dernier. Le conflit pendant entre les États-Unis et la Chine, parce qu'il porte sur le commerce et la maîtrise de l'innovation technologique, mais il peut déboucher sur une rupture militaire. Alors, il faut que les Américains se résignent à perdre leur leadership, estime O'Neill, parce que c'est dans le tuyau, et que les sociétés occidentales de leur côté apprennent à vivre en bonne intelligence avec la Chine, car la croissance chinoise profitera à tous. Les Chinois, eux, ne connaissent pas notre fameux ralentissement de la productivité.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain, Brice, dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.